Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Notre invité aujourd'hui,
Wang Nok, maître de conférence à l'Université de Paris 1.
La baisse des charges patronales était un thème récurrent des programmes des candidats à l'élection présidentielle. Ça semblait une mesure de bon sens si on voulait favoriser la création d'emplois puisque les patrons hésitent à embaucher dans la mesure où ils sont écrasés par les charges. C'est bien ça ?
On peut mettre des guillemets au mot charge.
Oui.
Parce que, à l'origine, les cotisations patronales et salariales, qu'on appelle des charges sociales, avaient pour vocation de financer les dépenses sociales de la sécurité sociale, très précisément en 1947 à sa création. Et ces cotisations étaient conçues à l'origine comme du salaire différé, puisqu'il s'agit de cotisations qui étaient ensuite reversées sous forme de prestations liées aux accidents du travail, par exemple, lorsque les salariés cotisants et les employeurs qui en étaient responsables devaient financer certaines réparations sociales. Et donc petit à petit, dans le débat public, s'est imposée l'idée que cela représentait un obstacle à l'emploi, d'où le terme de charges sociales véhiculées notamment par les organisations patronales.
Mais c'est pas vrai que c'est un obstacle à l'emploi. Ça semble assez naturel de penser qu'effectivement, si les patrons doivent donner moins quand ils embauchent quelqu'un, ils vont pouvoir embaucher plus de gens.
Oui, vous faites référence ici à la théorie néoclassique de la demande de travail des entreprises, qui est la théorie dominante expliquant que les entrepreneurs effectuent leur combinaison productive pour produire des biens en fonction du coût relatif des facteurs de production, c'est-à-dire en fonction du coût du travail et du coût des machines, du coût du capital. Et donc si le coût d'un des facteurs de production baisse par rapport à l'autre, eh bien les entrepreneurs sont censés substituer de ce facteur à l'autre. Par exemple, si le coût du travail baisse par rapport au coût du capital, les entrepreneurs sont supposés embaucher plus de travailleurs et utiliser moins de machines. Et à l'inverse, pour un même niveau de production, si le coût du travail augmente par rapport au coût du capital, eh bien les entrepreneurs vont utiliser plus de machines pour un niveau de production, et le tout étant évidemment compatible avec l'objectif de maximisation du profit. Donc ça, c'est la théorie dominante qui explique que le problème du chômage est essentiellement lié à un problème de coût du travail. Et donc, si la politique de l'emploi veut stimuler l'embauche, eh bien, il faut premièrement qu'elle contribue à baisser le coût du travail. Alors, ça se fait soit en réduisant les salaires directs, par exemple le salaire minimum, soit en baissant l'autre partie du salaire, le salaire indirect, les cotisations patronales notamment. Et la deuxième chose, c'est de faire en sorte que les travailleurs acceptent des emplois à salaire diminué. Donc on va inciter les chômeurs à accepter ces emplois, notamment par ce que les anglo-saxons appellent un impôt négatif, ou ce que l'on a appelé récemment la prime pour l'emploi dans le cas français. Donc vous voyez que cette théorie a des répercussions importantes dans le débat de politique de l'emploi. Le problème est que malheureusement, il n'y a pas vraiment d'études économiques sérieuses qui aient réussi à mettre en évidence un lien entre le coût du travail et l'emploi dans un pays comme la France. Les économistes s'accordent pour dire que, au plan macroéconomique, il n'y a pas de relation entre le coût du travail et l'emploi. On peut trouver, si vous voulez, des implications du coût du travail sur l'emploi, sur ce que les économistes appellent des données de panel, c'est-à-dire sur des échantillons réduits d'entreprises, où éventuellement on arrive à mettre en relation l'emploi et le salaire. Mais là encore, les études sont très fragiles parce que elles sont statistiquement peu significatives, ou lorsqu'elles le sont, ce que l'on appelle l'élasticité emploi-salaire, c'est-à-dire la sensibilité des créations d'emplois à une baisse du salaire, est très faible. Donc, dans le cas français, par exemple, il n'y a pas vraiment d'études qui avèrent cette relation, d'où la controverse sur la politique de l'emploi qui est menée par les gouvernements successifs depuis une quinzaine d'années, qui a consisté à baisser le coût du travail en finançant cette baisse du coût du travail aujourd'hui ça représente 120 milliards qui sont pompés sur le budget de l'État quand même.
Qui sont redonnés aux patrons ou qui sont
Ah oui, c'est qui sont donnés sous forme de subventions à l'embauche ou d'abaissement de cotisations patronales qu'il faut financer par le budget de l'État, d'où la création d'autres sources de financement de la sécurité sociale telles que la CSG, la contribution sociale généralisée, ou le RDS.
Vous pouvez repréciser ce que c'était?
Ce sont des prélèvements sur la base d'une assiette de l'impôt. Donc c'est pas une assiette salaire, hein, c'est pas la même assiette, c'est l'assiette de l'impôt qu'on va élargir aux revenus du capital par souci d'équité, et à partir de laquelle on va prélever des sommes affectées au financement de la sécurité sociale parce qu'on aura allégé de l'autre côté les cotisations patronales.
Tout à l'heure, vous m'accusiez sauvagement, pratiquement, d'avoir repris les thèses libérales en disant que si les charges patronales étaient moins fortes, finalement il y aurait plus d'embauches. Pourtant, ça me semble quand même le béaba. En quoi je me trompe, hein, ou quelles sont les autres théories qui pourraient infirmer ce propos?
C'est un débat ancien qui ressurgit avec actualité aujourd'hui. Je veux parler du débat entre un économiste qui s'appelait John Maynard Keynes et les économistes libéraux de l'époque dans les années 30, qui préconisaient face à la dépression des années 30 la flexibilité du marché du travail. Grosso modo, il s'agissait, pour lutter contre le chômage, de baisser le coût du travail et de mettre les chômeurs au travail. Alors Keynes contestait l'idée que la cause du chômage était due au refus des travailleurs d'accepter des emplois à bas salaire, et il contestait l'idée qu'en baissant les salaires, on allait régler le problème du chômage. Et donc, par transposition, on peut dire que ce n'est pas en baissant les charges sociales, entre guillemets, que l'on aboutira aujourd'hui à une baisse du chômage. Et le contexte parallèle est amusant parce que c'est un contexte où ce que l'on appelle aujourd'hui la financiarisation de l'économie est forte, c'est-à-dire où les marchés financiers ont un rôle important dans l'économie. Et Keynes voyait précisément dans l'incertitude qui règne sur les marchés financiers la principale cause du chômage. Alors, par quel canal ça passe? Ça passe par deux canaux. Lorsque vous avez de l'incertitude, c'est-à-dire vous ne pouvez pas prévoir le cours des actions, des obligations, la valeur de la monnaie, la structure des taux d'intérêt, etc., eh bien, naturellement, les agents vont spéculer sur le marché financier, c'est-à-dire que ils vont déplacer leurs capitaux sur le très court terme dans la perspective de plus-value immédiate. Et cette épargne spéculative ne se transforme jamais en investissement. Et la première cause, précisément, du chômage, selon Keynes, c'est que les politiques libérales qui encouragent l'épargne, notamment par les baisses d'impôts bénéficiant aux catégories aisées qui épargnent, sont inefficaces dès lors que on a une épargne spéculative qui va se balader et qui ne nourrira jamais l'investissement. Donc ça, c'est une première cause du chômage. Et la deuxième cause, c'est que lorsque se forment des bulles spéculatives, c'est-à-dire que lorsque ça monte en période d'incertitude, tout le monde achète, les individus obéissent dans un contexte d'incertitude à ce que Keynes appelle des comportements moutonniers, des comportements mimétiques. On fonctionne à la rumeur, on fait en fonction de ce que fait le voisin, donc si ça marche, tout le monde achète, même si ça n'a aucune relation avec l'économie réelle. Et puis, le jour où ça se retourne, le jour où quelqu'un se met à vendre, eh bien, tout le monde va vendre. Et donc, la bulle spéculative, dans ce cas, éclate. Et lorsque les épargnants sont ruinés, cela a un effet dans l'économie réelle, puisqu'ils vont chercher à reconstituer leur patrimoine. Et ils vont le faire en réduisant leur consommation et, en ce qui concerne les entreprises, en réduisant leur investissement. D'où une croissance et une demande insuffisantes. Et le fait qu'apparaît là encore du chômage involontaire de masse, contexte dans lequel les travailleurs auront beau accepter une baisse du salaire, eh bien les entreprises n'auront pas intérêt à les embaucher. Hein, et plus que jamais aujourd'hui dans un contexte de financiarisation, on a des périodes de dépression où les causes du chômage ne sont manifestement pas dû à un problème de coût du travail. Le coût du travail a baissé considérablement par les différentes mesures d'abaissement de charges sociales depuis une quinzaine d'années, et l'instabilité financière explique bien plutôt la montée du chômage et les difficultés rencontrées par un pays comme la France depuis un petit peu plus de 6 mois.
Il y a quelque chose que je ne comprends pas trop. Finalement, vous avez l'air de dire qu'il y a une sorte de forme d'argent inactif par rapport à l'économie productive, on pourrait dire, par le fait que, à un moment, vous avez dit que la spéculation ne nourrit pas l'investissement. Moi, je pensais que quand on plaçait son argent en bourse, ça allait directement dans la sphère productive.
Oui, la théorie libérale estime que la condition sine qua non de la croissance, bah, c'est l'épargne, c'est qu'on renonce à consommer et que les profits dégagés par l'entreprise, par les entreprises, soient placés sur les marchés financiers pour alimenter l'investissement. D'où les politiques libérales qui encouragent l'épargne par une fiscalité attractive sur le capital et sur les hauts revenus, puisque les hauts revenus sont supposés plus épargnés que les bas revenus qui consacrent leurs revenus à la consommation quand ils augmentent. Le malheur, c'est que si l'on introduit ce que Keynes appelle l'hypothèse d'incertitude, comme je vous l'ai dit, naturellement, une partie des agents va vouloir se prémunir face à l'incertitude, et donc va spéculer. Et le propre de la spéculation, c'est qu'on a des déplacements continuels de capitaux qui, de fait, ne se matérialisent pas par l'investissement. Et quand vous prenez les chiffres dans les années 90, c'est extrêmement frappant, parce qu'on a baissé les salaires, on a baissé le coût du travail en France, hein, la part des salaires dans la valeur ajoutée a baissé de 10 points entre 84 et 95, et on a une courbe de profit ascendante, une courbe d'épargne ascendante, très précisément, mais une courbe d'investissement qui décroît. Les taux d'investissement décroissent durant cette période, et le taux de chômage augmente. Ce qui vous montre bien que les profits d'avant-hier n'ont pas été les investissements d'hier et ne seront pas les emplois d'aujourd'hui.
Il y a vraiment décidément quelque chose que j'arrive vraiment pas clairement à comprendre. Vous disiez tout à l'heure, alors je suis peut-être un peu répétitive, mais je la comprenais très très lente aujourd'hui. Vous disiez que l'argent qui était placé finalement en bourse n'était pas de l'argent qui partait dans les investissements. Or, j'ai compris exactement l'inverse depuis plusieurs années, où on incite les braves épargnants que nous sommes à aller placer notre argent en bourse sous prétexte justement de créer de l'emploi d'une certaine façon.
Je vais vous donner deux exemples qu'on peut mettre en parallèle de façon assez amusante. C'est les nouvelles technologies et l'évolution du Nasdaq, c'est-à-dire l'indice des valeurs technologiques aux États-Unis, et puis le marché automobile des années 30. On a exactement le même phénomène qui se produit, c'est-à-dire que on a des épargnants qui se ruent en masse sur ces valeurs. Les valeurs technologiques aujourd'hui, les valeurs de l'industrie automobile à l'époque, donc se forme une bulle financière à la hausse. Tout le monde anticipe des hausses de cours, donc les épargnants achètent des actions et le cours de l'action monte. Mais en même temps, les conditions de développement du secteur des nouvelles technologies dans l'économie réelle, tout comme le développement du marché automobile dans les années 20, n'étaient absolument pas, ne sont et n'étaient absolument pas assurés. Si bien que le jour où on s'est rendu compte que le développement réel de ces secteurs ne se faisait pas, qu'est-ce qu'on a fait? On a vendu. Et la bulle spéculative a fini par crever et tout le monde a revendu les actions. Tout ça étant lié au fait que, il y a une déconnexion ici entre la bulle financière et l'économie réelle.
On avait oublié qu'il fallait des gens pour acheter les automobiles qui étaient créés, quoi.
Voilà, c'est ça. Il n'y avait personne pour acheter les automobiles, tout comme aujourd'hui. On n'achète pas suffisamment de logiciels, et donc on achètera d'autant moins que les gains de productivité des entreprises sont redistribués non pas sous forme d'augmentation de salaire précisément, mais sous forme de dividendes, sous forme de fonds de pension, sous forme d'épargne salariale. Et ce sont des produits qui, naturellement, ne vont pas alimenter la consommation, mais vont continuer à entretenir la bulle spéculative.
Mmh. Et pour en revenir à nos fameuses charges patronales, comme on dit, est-ce qu'elles sont... qu'est-ce qu'il faut faire, finalement? Il faut les baisser, effectivement? Il faut les laisser comme c'est?
Alors, le fait que... il n'y ait pas de relation avérée entre le coût du travail et l'emploi sur des tests économétriques ne veut pas dire qu'il n'y a pas des entreprises, notamment les PME, qui souffrent d'un problème de coût du travail. Et donc, dans ce cas, il y a une proposition de réforme qui est défendue par de nombreux économistes, qui consiste à basculer le financement de la sécurité sociale, non pas en finançant celle-ci non pas sur la seule assiette salaire, mais en basculant le financement sur une assiette valeur ajoutée, c'est-à-dire salaire et profit. Hein, donc là, on ferait contribuer, si vous voulez, le capital à égalité avec le salaire au financement de la sécurité sociale, ce qui aurait pour effet d'opérer un transfert de charge au bénéfice des entreprises qui sont riches en main-d'œuvre et qui sont faiblement capitalistiques, et au détriment des entreprises qui utilisent relativement moins de main-d'œuvre que de capital, ou au détriment des entreprises qui ont opéré ce qu'on peut appeler parfois couramment des licenciements boursiers.
Et c'est une solution qui est préconisée au niveau politique, ou il n'y a personne qui, à part vous, qui dit cela ?
Ah bah c'était dans le programme du PS et du candidat Jospin avant qu'il n'opère le recentrage qui a mené à sa défaite au premier tour. Il a choisi d'enlever cette proposition, mais elle figurait bien dans le programme initial du PS.
Il y a des problèmes. Quelles sont les raisons pour lesquelles il a songé à l'enlever ?
Bah, j'ai un peu le sentiment que beaucoup d'experts économiques qui conseillent le prince aujourd'hui, ou les princes, sont ralliés un petit peu à la thèse libérale selon laquelle on ne peut pas faire autrement que d'accepter la financiarisation de l'économie cette acceptation conduit nécessairement à ne pas taxer les profits.
Et les syndicats, qu'est-ce qu'ils ont dit de tout ça ?
Bah, les syndicats sont partagés sur la question. La CGT et la CFDT sont plutôt favorables à ce type de mesure. Force ouvrière défend plutôt un financement sur une assiette salaire parce que considère que changer d'assiette irait vers une fiscalisation de la sécurité sociale, c'est-à-dire à une confiscation, selon les dires de Marc Blondel, de la Sécu par l'État. Mais si vous voulez, il y a un autre débat qui est intéressant dans cette affaire de cotisation patronale, c'est que il y a aujourd'hui des dépenses qui ne sont plus uniquement liées au travail, qui sont devenues des dépenses à caractère universel, c'est-à-dire les dépenses maladie et les dépenses famille, c'est-à-dire qu'il y a des catégories qui en bénéficient sans que forcément leur activité soit liée au travail, et donc dans ce cas, ça peut justifier un changement d'assiette. On peut justifier de financer les dépenses maladie et les dépenses, les dépenses santé, par exemple, sur la base de la valeur ajoutée et sur la base d'une CSG qu'on pourrait rendre progressive pour des soucis d'équité. Et puis on maintiendrait, par ailleurs, le système de cotisation patronale géré paritairement par les organisations professionnelles pour les dépenses retraite, à condition, bien entendu, que l'on s'entende pour maintenir le système par répartition, ce qui va dépendre, évidemment, de la politique menée par le gouvernement qui sera issu des prochaines élections législatives.
J'avais juste encore une dernière petite question qui concernait le rôle éventuel du chômage dans l'accroissement des charges patronales. Est-ce qu'il y a un lien de l'un à l'autre ?
Bah, il y a un lien dans la mesure où l'accroissement du chômage conduit à un accroissement de l'indemnisation du nombre de chômeurs. Maintenant, dans le débat public, c'est plutôt la relation inverse qui est discutée. C'est est-ce que c'est parce qu'il y a trop de cotisations patronales que il y a du chômage ou pas, quoi. Donc là, comme on a essayé de le voir aujourd'hui, le débat est beaucoup plus controversé qu'il n'y paraît dans les discussions de Café du Commerce. Thank you.
C'était donc des sous et des hommes en compagnie de Lim Hornock. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire les politiques de l'emploi. C'est publié aux éditions Seuil, dans la collection Point Seuil, c'est-à-dire un format de poche. Et puis je vous rappelle aussi que vous pouvez lire sur la théorie néoclassique du marché du travail, le petit livre de Laurent Cordonnier, Pas de pitié pour les gueux, petit livre savoureux et drôle. À la semaine prochaine, mardi, 17h, 17h30.